cette équipe d'Argentine perde des matchs qu'on n'aurait pas fait autrement.
Très bien, ben messieurs, merci de nous avoir accompagnés. Rendez-vous le 7 octobre pour Tribune Foot, hein, à chaque rendez-vous, chaque premier dimanche du mois. Et puis nous, on enchaîne maintenant. Dans la deuxième heure, on va parler du Tour de France, place au carré.
RVE, bonne matinée. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour. Au moins 9 morts sur la côte est des États-Unis, des quantités monumentales de pluie, des routes coupées et des alertes inondations. Les autorités demandent aux habitants évacués de ne pas essayer de rentrer chez eux. C'est le bilan encore provisoire de la tempête Florence qui s'est abattue en Caroline du Nord, du Sud et sur la Virginie. Aux Philippines, ce sont au moins 25 personnes qui ont été tuées par le passage du super typhon. Des dizaines de milliers d'habitants quittent leur domicile face au risque grave d'inondation. Le typhon se dirige maintenant vers le sud de la Chine. Pour la première fois de son histoire, la ville de Macao ferme tous ses casinos. C'est la capitale mondiale du jeu, loin devant Las Vegas en termes de chiffre d'affaires. Un prêtre chilien privé de son sacerdoce par le Vatican, Christian Precht, est soupçonné d'avoir dissimulé des faits de pédophilie. Il a déjà lui-même été sanctionné en 2012 pour conduite abusive envers des mineurs. 752 kilos de cocaïne saisis vendredi matin dans le port du Havre. Un conteneur venu d'Amérique du Sud, valeur estimée de la marchandise, plus de 30 millions d'euros. Pour l'instant, aucune arrestation. Alors que les journées du patrimoine se poursuivent encore aujourd'hui avec 17 000 monuments ouverts au public un peu partout en France, le loto du patrimoine lancé par le gouvernement a rapporté vendredi 14 millions d'euros. C'est 30% de mise en plus par rapport à un tirage classique. 3,5 millions vont directement financer le patrimoine français en péril. Des dysfonctionnements dans la construction et l'entretien du stade de la Licorne à Amiens. C'est la révélation d'un nouveau rapport d'experts dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement de cette barrière en plein match il y a un an. Un accident qui a fait 29 blessés. Le foot avec des matchs nuls pour les gros clubs de Ligue 1. Hier, un partout pour Monaco face à Toulouse. 2-2 entre Lyon et Caen. Bonne journée.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, alors après donc le mondial, messieurs, nous on n'est pas partis en vacances tout de suite, on a continué à travailler et naturellement on est allé notamment sur la route du Tour. Il y avait une étape à Chartres, hein, pas très passionnante, victoire du Hollandais Grand Van Grovenhagen. Ensuite on est allé aux Champs-Élysées pour la victoire aussi de Christophe. Pierre, tu as suivi le Tour?
Oui, comme tous les ans.
Bon, victoire de Geraint Thomas, alors ça n'a pas été un tour exceptionnel,
non.
Faut le dire, sur le plan sportif, je crois qu'il faudrait enlever les oreillettes, mais bon. C'est la première victoire d'un Gallois sur le Tour de France.
Ça fait quand même quelques années que maintenant le Tour de France, me fait moins rêver. C'est cadenassé par une équipe qui a les meilleurs.
Ça l'a souvent été, hein.
Oui,
du temps d'Indurain, du temps d'Armstrong,
oui,
et même avant, c'était pareil.
Je sais pas, il y avait des victoires de panache avec des gars comme Pantani ou Virenque même, ou même Jalabert. Là maintenant, je vois d'année en année, ça c'est moins bien. Ils essayent d'innover avec des étapes de 17 km ou je sais pas 60 km pardon.
Oui, c'est mieux que les grandes étapes où il se passe pas grand-chose.
C'est pas vrai, c'est pas faux, mais
de moins en moins passionnant parce qu'on voit que les gens qui tentent quelque chose se font toujours rattraper à 5 ou 6 km.
Il y a
plus rien.
Va falloir qu'ils fassent quelque chose, je pense, parce que c'est quand même un grand spectacle, hein. C'est sûr qu'il y a aller le voir sur les routes,
hors Coupe du Monde et Jeux Olympiques,
il y a pas de mois de juillet sans Tour de France, enfin moi personnellement c'est ça. Mais quand on voit les longues étapes où à la fin ça arrive sur un sprint massif, c'est vraiment ennuyeux, je trouve.
Voilà, alors on va rappeler quand même le classement. Geraint Thomas qui s'impose devant Tom Dumoulin à 1,51 et Christopher Froome 3e 2,24. Maillot vert, Peter Sagan. Maillot blanc, Pierre Latour, le français. Dan Martin, super combatif. Julien Alaphilippe, le français qui a gagné donc deux étapes sur ce tour, qui remporte le maillot à poids. Et puis naturellement, ce sont les Movistar qui sont la meilleure équipe. 3 victoires d'étape française, puisque aux 2 de Alaphilippe, il faut ajouter celle d'Arnaud Demare.
Ouais, c'est vrai que si on devait tirer une bonne note de ce tour, ce serait Julien Alaphilippe qui s'est révélé aux yeux de la France et du grand public qui aime le tour. C'est un puncher, il a été chercher dans les étapes de montagne son maillot à poids. Pour moi, c'est la seule bonne note du tour cette année. Après, le reste, j'ai pas vu d'étapes de montagne qui m'ont fait. Parce qu'il y a eu 4-5 cols, certes, parfois dans des étapes, et ils attaquaient toujours dans le dernier col. Il n'y avait pas de. Enfin voilà, moi je. Mmh. À part Julien Alaphilippe qui est allé chercher son maillot à poids, j'ai pas trouvé le tour passionnant.
Voilà, bah Julien Alaphilippe, on va l'entendre. Plutôt que de répondre à nos interviews, il a voulu finir le tour de façon assez originale. Vous allez entendre le clap qu'il a proposé aux journalistes.
Et on va faire un petit truc pour fêter la fin du Tour de France tous ensemble.
Voilà pour Julien Alaphilippe qui a gagné depuis le Grand Prix de Saint-Sébastien puis le Tour de Grande-Bretagne. C'est le coureur français de l'année quand même.
Oui, exactement. Il sort sur la vague. Et puis là, on peut dire aussi, je ne sais pas si c'est ce que tu allais dire, Francis, mais je suis aussi un peu la Volta et les Français aussi, ils figurent bien.
Oui, ça va se finir aujourd'hui. C'est Yates qui va gagner avec 5 victoires d'étapes françaises.
Oui, il y a eu beaucoup d'étapes. Oui, il y a eu des étapes gagnées par Rudy Mollard, je crois, c'est ça.
Mm-hmm. Et deux par Thibaut Pinot.
Thibaut Pinot aussi, oui, qui a gagné l'étape reine dans la montagne.
Non, mais je crois qu'Alaphilippe, je voulais dire simplement, c'est que dans les classiques belges, il n'en a pas gagné une où il s'est bien classé dans les.
Il a gagné la Flèche Wallonne.
Oui,
c'est la Flèche Wallonne. On vient de le dire, là. Oui,
c'est ça.
Non, mais les classiques belges, il faut.
Il a gagné la Flèche Wallonne et il a gagné.
Pour en gagner, il faut être costaud.
Bon, alors, on va entendre quelques coureurs, on va entendre. Notamment Nicolas Hédé, 43e, et donc de l'équipe Cofidis, qui nous raconte donc son Tour de France 2018.
Allez, Nicolas, un dernier tour qui termine.
Un de plus.
Alors, comment vous l'avez vécu, ce Tour de France 2018? On vous avait encore aujourd'hui tenté.
C'est un tour où on était, merci. On était on était offensif, toute l'équipe, on s'est mis dans les échappées. Christophe Laporte a fait des bons sprints dans les arrivées massives. Voilà, on a eu un tour très positif, très encourageant. Il nous manque juste la victoire pour couronner tout ça.
Et vous, personnellement, vous en êtes satisfait de ce tour?
Oui, j'ai fait un très bon Tour de France. J'ai pu glisser dans pas mal d'échappées. J'ai pu jouer la gagne amande. Voilà, donc ça a été un tour positif. Après, il y a tous les meilleurs coureurs au départ, donc il faut arriver à être vraiment dans un excellent jour pour pouvoir jouer quelque chose.
Bon, quand on arrive sur Paris, une sorte de délivrance finalement.
Ouais, Paris c'est les Champs-Élysées, c'est l'histoire du tour. C'est toujours particulier quand on arrive sur les champs.
Et puis on retrouve sa petite famille.
C'est ça, exactement.
Voilà, ce soir ça va être la fête un peu.
Ouais, ça va être. On va décompresser, on va profiter tous ensemble. Et puis après on va retourner à une vie plus classique.
Merci Nicolas.
Merci.
Voilà pour Nicolas Hédé qui depuis je crois a gagné le Tour cycliste du Limousin. Alors on va également entendre Thomas Bouda de l'équipe Direct Energy. Il a terminé 140e, il nous raconte son deuxième Tour de France et surtout il parle de Sylvain Chavanel.
Alors Thomas, un tour qui se termine?
Oui. Un deuxième tour qui se termine pour moi.
Comment vous l'avez vécu ce Tour de France?
Mieux que l'année dernière, comme je dis, je sens que j'ai progressé, j'ai fait des bonnes étapes, que ce soit en montagne ou au sprint, je commence à prendre mes repères et c'était ça, même s'il n'y a pas eu le gros résultat à la clé, je suis quand même satisfait de ce tour.
Oui, on vous a vu aussi souvent aux avant-postes, à la bataille.
Oui, j'ai réussi à prendre des échappées aussi. Malheureusement, on pensait que l'échappée à Pau allait aller au bout et c'était un pari. Je me suis lancé dans la bataille, ça n'a pas marché, mais ça finira par marcher un jour.
Bon, on vous connaît, vous venez de la piste, c'est un avantage.
Non. Bah oui, parce que Garen Thomas a gagné le tour.
Ah, c'est pas mal.
Forcément, c'est un avantage.
Ouais, c'est bien. Et cette équipe, donc Direct Energy, aujourd'hui, c'est la fin pour Sylvain. Je suppose que ça a été une journée un peu particulière.
Ouais, après, c'est pas la fin de sa carrière, mais c'est vrai que le fait qu'il annonce ça, qu'on a vu le reportage sur France Télé, on a tous versé notre petite larme. C'est quelqu'un de très attachant, Sylvain, il nous a beaucoup apporté. Et c'est avec un pincement au cœur aussi qu'on a franchi cette ligne parce qu'on savait que c'était son dernier Tour de France et il y a beaucoup d'émotions.
Bon, ce soir, on va fêter ça un peu quand même.
Toute la famille est là, oui. Ils sont venus m'encourager sur cette dernière étape. Et les amis, tout ça, c'est toujours des moments qui sont très importants, surtout que moi, je suis très famille. Et c'est important de les avoir à nos côtés.
Et quand on arrive sur les champs, c'est trois semaines de délivrance, on pense à tout ce qu'on a enduré.
Ouais, des fois on se fait une rétrospective un petit peu des trois semaines, on se dit ah ouais, c'était déjà ça sur le Tour de France, on a l'impression que c'était il y a des années. Et ouais, un Tour de France ça passe vite, mais on a l'impression qu'on y est, quand on arrive au bout, on a l'impression que ça fait longtemps qu'on y est.
En tout cas, bravo Thomas et à très bientôt.
Merci, au revoir.
Voilà, et puis plein d'humour, hein, Thomas Bouda. Alors on va écouter maintenant celui qui faisait son dernier Tour de France. C'était Thomas Vauclair l'année dernière, c'est Sylvain Chavanel cette année. On l'écoute donc pris en interview par l'ensemble des journalistes. Arnaud Zamer, une nouvelle fois présent sur l'arrivée du Tour de France.
Ouais, c'est une habitude que j'aime prendre, effectivement. C'est une passion, le vélo, depuis que je suis tout petit, donc j'essaye de ne pas rater ça, ouais.
Je crois savoir que vous réservez tout vos après-midi, hein. Faut pas venir vous déroger.
Ouais, pendant le Tour de France, c'est assez... c'est une habitude, c'est devenu depuis 35 ans que je m'intéresse à ça. C'est un rendez-vous tous les après-midi de juillet, c'est Tour de France, quoi. Oui. Quand on me demande ce que je fais, si je vais au Festival d'Avignon, etc., je dis bah non, oui, c'est Tour de France.
Les champions cyclistes sont des héros, hein. Il y a toujours une aventure humaine.
Bah, j'ai une admiration qui s'éteindra jamais pour ces mecs-là, en fait. C'est plus que des sportifs, c'est des... c'est des vrais héros, ouais. Ouais, il n'y a pas d'autre mot, ils sont durs au mal, travailleurs, ils gagnent pas un rond et ils ouvrent jamais leur gueule, moi je dis respect.
Oui. Bon, vous faites un peu de vélo, Arnaud, je sais, vous aimez aussi le sport mécanique et puis le foot.
Ouais, ouais, j'adore les sports que vous venez de citer, mais le vélo, ouais, je pratique un petit peu, ouais. Ouais, j'essaye de me maintenir en forme. Avec la quarantaine, il faut.
Bon, cette année, dans quelques jours, on va s'ennuyer. On a eu un bel été entre la victoire de nos bleus mondiales et le Tour.
Ouais, il y a quelques rendez-vous sportifs quand même au mois d'août, mais c'est sûr que comparé à ce qu'on a vécu là en juin-juillet, ça va être un peu fade, on va dire. Mais non, c'était un super bel été de sport. Ouais.
Ouais. Rendez-vous l'année prochaine alors.
Exactement, comme toujours, fidèle au poste.
Merci Arnaud.
Merci à vous.
Voilà, merci Arnaud Zamer. C'était pas naturellement Sylvain Chavanel, hein, mais Arnaud Zamer, l'humoriste, hein, qu'on connaît bien, qui est un grand passionné de sport et notamment de Tour de France. Et comme il nous l'a dit, pour rien au monde, donc il raterait le Tour de France. Alors maintenant, on va pouvoir, comme prévu, donc écouter Sylvain Chavanel qui faisait son dernier Tour de France.
Vous avez entré le premier sur les Champs-Élysées ce soir, racontez-nous.
Oui, c'est quelque chose de magnifique. Vous savez, il y a encore des codes dans le peloton, notamment l'équipe du leader qui doit passer sur la ligne d'arrivée sur les Champs avec le maillot jaune. Et là, j'ai eu le banc de sortie de l'équipe Sky. Et c'est la meilleure façon de dire au revoir au Tour de France. Voilà, j'ai fait un tour d'honneur à dire au revoir au public. Voilà, après tant d'années, tant de participation, tant d'étapes à l'avant. Voilà, j'ai vécu beaucoup de choses sur les Tours de France, beaucoup d'émotions. J'ai vécu tout ce qui est possible pour un coureur cycliste. C'est-à-dire, j'étais super combatif, j'ai passé en haut de col mythique, j'ai porté tous les maillots, j'ai gagné des étapes. Donc voilà, j'ai fait un beau parcours et je dois tout au Tour de France. Ma popularité, voilà, je dois énormément au Tour de France, donc c'était la meilleure façon possible de dire au revoir aujourd'hui.
Vous avez vu toutes les pancartes avec votre nom aujourd'hui, encore plus encore que sur les premières étapes en Vendée.
Ah, je dirais ça m'a suivi durant ces trois semaines, donc c'était quelque chose de magique quand même, parce que j'ai pu voir que j'avais une popularité grandissante malgré les générations que j'ai traversées, parce que voilà, je suis toujours aussi populaire, donc ça c'est une certaine fierté aussi. Ça veut dire que voilà, ma simplicité plaît sûrement aux gens. Ce qui m'a marqué le plus aujourd'hui, j'ai vu une grande banderole avec mon numéro de dossard. Et c'était une des plus belles banderoles de ce Tour de France.
C'est le dernier tour, mais c'est pas encore la fin. Il reste une fin de saison.
Exactement. J'ai le championnat de France sur piste prochainement au mois d'août. J'ai le Tour Poitou-Charentes, le Tour de Grande-Bretagne. J'ai envie de finir ma saison sur le Tour de Vendée. Dire au revoir au public vendéen, le public de Jean-René Bernedeau. C'est lui quand même qui m'a fait découvrir ce monde-là. Donc c'est pareil, ça va être quelque chose d'assez spécial au niveau des émotions.
Merci et bravo.
Merci.
Sylvain, juste un petit mot. Voilà pour donc la fin de Sylvain Chavanel, son dernier Tour de France. Naturellement, sa saison, comme il l'a dit, s'arrêtera dans quelques semaines à l'issue du Tour de Vendée. Allez, avant d'envoyer la pub, on va écouter quelqu'un qu'on ne présente plus. C'est Raymond Poulidor. Hein. Alors, on était pas très très enthousiaste au Tour 2018. Lui, Poupou, le Tour, ça lui a plu. Allez, Raymond Puy d'Or, alors un Tour de France qui se termine, j'allais dire un plus,
oui. 56.
Ouais. Et alors, comment vous l'avez trouvé ce tour, vous qui le vivez de l'intérieur, oui.
Contrairement à ce qu'on a dit, qu'on s'était ennuyé, moi j'ai trouvé que les Français ont été remarquables. Jamais on a eu de Français qui se sont montrés à leur avantage. Bon, évidemment, on aurait aimé que Bardet soit sur le podium ou occupe la plus haute marche. Bon, mais ce qui a tué ce Tour de France, c'est la domination sans partage de l'équipe Sky. Dès l'instant où on a vu cette domination, après j'ai eu l'impression qu'on courait pour la deuxième et troisième place, pour le podium. Heureusement, il y a eu cette troisième étape des Pyrénées où il y a eu des attaques, mais on aurait aimé que ce soit Dumoulin qui attaque. Mais vous savez, lorsqu'on est dans son fauteuil, moi aussi je suis critique, je dis mais pourquoi il attaque, pourquoi il n'attaque pas. Vous savez, lorsque vous avez une Ferrari en tête, la deux chevaux, ça va être difficile à la doubler. Et on a vu encore hier, lors de l'explication finale dans le test chronométré individuel, il y avait pratiquement toute l'équipe Sky qui occupait les premières positions. Avec le travail qu'ils ont fait, ils terminent pratiquement, je dirais pas fatigués, mais en super forme.
On l'a vu dans le passé aussi, des équipes qui écrasent et qui dominent le tour, c'est pas nouveau.
Oui, bien sûr. Bon, moi je suis ça de près. Je suis les critiques et tout. Alors, on a vu que Froome, lorsqu'il a eu des problèmes dans cette troisième étape, on a dit, ça y est, c'est la fin de Froome. C'est sa carrière, il peut arrêter le vélo et tout. Et puis hier, on a vu un grand Froome. Moi, je veux bien, si l'homme est en déclin, occuper le podium et pas très loin du vainqueur. Je veux bien, mais bon.
Voilà. Donc ça veut dire quand même qu'un Français peut gagner le Tour un jour ces prochaines années, parce qu'il faut être complet quand même.
Ben, un Français peut gagner le Tour. Bon, pour l'instant, bon, c'est Bardet qui était favori, qui faisait parmi les favoris. Bon, je me répète, bon, on a eu un Alaphilippe transcendant. Puis, bon, je ne parlerai pas de Sagan. Sagan est hors norme. Et puis, vous avez la Porte qui a fait un travail énorme. Vous avez Calmejad qui n'hésite pas à attaquer. Bon, on a été peut-être un peu déçus. Bon, mais il s'est battu avec ses armes. Il a changé d'équipe. C'est Barguil qui a été remarquable. Et une victoire, une troisième victoire française à Pau avec Demar qui a montré qu'il avait un courage énorme. Et ce jour-là, à Pau, c'est un travail d'équipe. Toute l'équipe a contrôlé cette course. Démarre conclu par une victoire superbe.
Bon. Et puis peut-être aujourd'hui encore sur le champ.
Ah ben il fait partie des favoris, oui. Bon, beaucoup de sprinters sont rentrés à la maison. Le lot est de plus en plus restreint. On ne sait pas Sagan, puisque je l'ai observé hier lors de l'étape chronométrée. Il me semble qu'il a des problèmes avec un poignet, puisqu'il avait du mal à tenir le poignet. Et on a très bien vu lors de l'arrivée à Pau, il était superbement placé et il n'a pas pu tirer sur le guidon. Alors aujourd'hui, s'il avait toutes ses capacités, il serait très difficile à battre.
En tout cas, vous, Raymond, toujours content d'être là sur le Tour et vous êtes toujours aussi populaire, même les générations qui ne vous ont pas connu. C'est ça quand même qui est fou.
Oui, oh ben cette popularité, je la laisserai un peu de côté. Moi, c'est le plaisir avant tout. Hein.
Bien sûr, il faut que ça continue comme ça.
Vous savez, il y a l'âge qui est là.
Hein. Merci en tout cas.
Je vous en prie.
Voilà pour Raymond Puy d'Or, qu'on a eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer à Rambouillet pour une dédicace de livre il y a 2 ans.
Pour Leclerc.
Juste quelques semaines avant le regretté Raymond Coppa. Arnaud, le vélo, Tour, ça t'a un peu déçu cette année ?
Bah non, mais je dois reconnaître que depuis tout petit, je suis un très grand fan de vélo. Et voilà, cette année, je n'ai pas trouvé d'intérêt particulier. Voilà, Froome et la Sky de toute façon depuis plusieurs années écrasent le Tour. On a un peu l'impression de voir une passation de pouvoir en se disant chez les Sky, tiens au pif, et si cette année c'était Guerin qui gagnait, et voilà, ils ont donné la victoire à Guerin et je trouve qu'on n'a pas spécialement de spectacle et ça manque d'intérêt pour le public.
Non mais et puis on a, enfin moi personnellement encore une fois j'ai peur que dans 1 an, 2 ans on apprenne que Geraint Thomas était dopé ou que Christopher Froome était, et puis l'histoire de Subultamol avec Christopher Froome c'était un peu bizarre aussi, enfin encore déçu.
Voilà, allez la pub, la musique et on continue avec donc encore quelques interviews sur le Tour 2018.
meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Chérie, t'as pensé acheter un cadeau pour la soirée chez Clémence samedi soir?
Mais oui, mais je sais pas où aller. Je voudrais trouver quelque chose d'original.
Va chez Alcide et Léonie.
Où ça?
Chez Alcide et Léonie. C'est un concept store génial. Il y a un choix exceptionnel en déco et en mobilier design. Avec des marques comme Hey, Fatboy, Muto et plein d'autres marques tendances. Tu es sûr de leur trouver LE cadeau original.
Alcide et Léonie, vos concept store déco et ameublement. À retrouver à Dampierre en Yvelines, à Montfort-l'Amaury et à Versailles, place Hoche.
À Rambouillet, 14 rue Challes, et c'est ma fenêtre, votre spécialiste ISO France vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres, stores, volets, portes d'entrée et portes de garage sur mesure en PVC, bois, alu et mixte. Et c'est ma fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste et c'est ma fenêtre, 14 rue Challes à Rambouillet au 01 30 88 62 32.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loi Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnosticaupluriel.fr.
Et maintenant, une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE.
Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme, alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame, alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas ou tes hauts, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche ta trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant. Que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la carte assez marrant. Viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour, quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Alors couille sur le sable avant. Jusqu'à demain, elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons un marin, prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Célibataire, jusqu'à demain, elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons un marin, prêt à rester sur terre. Feel te découvres pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvres pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, 11h25. Alors, avant de repartir sur les dernières interviews sur le Tour, Arnaud, bah, il y a un record du monde. Ça fait partie de ces grands événements sportifs de l'été. Donc, un record du monde sur l'athlétisme.
Alors, je vais essayer de bien le prononcer. C'est le Kenyan Eliud Kipchoge, oui, qui a battu le record du monde du marathon en 2h01 et 40 secondes, voilà, à Berlin ce matin.
Voilà, donc record du monde du marathon.
Pour parler des marathons, on a Kevin Mayer au Decastar actuellement, qui après 6 épreuves sur 10 est en avance sur le record du monde du marathon, donc à suivre dans la journée.
Du Decathlon,
pardon, excusez-moi, du Decathlon, donc à suivre dans la journée. Merci beaucoup Pierre de m'avoir corrigé.
Voilà, allez, on repart sur le Tour, tiens. On parlait de tennis hors antenne. Eh ben, on a rencontré sur la route du Tour de France, avant ses interviews, Nelson Montfort. On lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait là. On y va. Allez, avec Nelson Montfort. Nelson, surpris de vous voir ici sur le Tour de France.
Oh, c'est une de mes épreuves préférées depuis toujours. C'est une épreuve populaire dans le sens du mot. Et je suis très, très heureux d'être sur la ligne d'arrivée.
Oui, alors il y a cette proximité entre les journalistes et les cyclistes, hein, quoi, peut-être encore plus que dans d'autres sports.
Oh oui, je suis tout à fait d'accord. C'est la réflexion que je viens de me faire. Je trouve que c'est un sport extrêmement accessible, extraordinairement accessible. Et c'est un vrai bonheur, un vrai bonheur.
Vous aimeriez le commenter, ce sport?
Ben aujourd'hui, je suis déjà sur le dispositif d'arrivée dans le public, avec différentes interventions dans le public. Donc voilà, c'est un premier pas. Le commenter, je n'en aurais pas la compétence. En plus, Alexandre Pasteur, chez nous, ferait ça très bien.
Non, mais pour les interviews.
Ferait ça très bien. Oui, ben là, c'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui et je suis très heureux d'en faire partie.
Voilà, quelques mots de Nelson Montfort, hein, juste avant les quelques interviews qu'il avait fait, donc le jour de cette dernière étape du Tour de France. Allez, Daniel Potra, ça vous dit quelque chose? Donc, ex-journaliste sportif, grand spécialiste de cyclisme et de ski. Naturellement, lui, c'est un des éminents spécialistes de ce sport qui ne rate pas du tout le Tour de France et on l'a rencontré également parmi nos confrères journalistes. Allez, avec Daniel Potra. Daniel, bonjour. D'abord, un petit mot sur ce Tour 2018 qui se termine. Toujours un peu de mélancolie, de nostalgie de voir un Tour terminé.
Oui, c'est vrai, parce que demain matin, on va se sentir en manque un petit peu. C'est toujours la même chose. C'est un Tour qui a déçu certaines personnes, un Tour qui aurait pu être beaucoup plus passionnant si les coureurs en avaient décidé ainsi. Au départ du Tour, il y avait bien une dizaine de champions qui étaient susceptibles de porter le maillot jaune sur les Champs-Élysées. Alors on se disait que dans les 10, il y en a qui se sentaient peut-être un peu moins forts que les 4 ou 5 meilleurs et qu'ils allaient attaquer, essayer des coups dès les premières étapes. Ça n'a pas été le cas. C'est le cyclisme moderne, hein. On remet au lendemain et en fait, il y a eu une seule véritable étape de bagarre, ça a été l'avant-dernière.
Oui, les Sky trop forts, comme par le passé, les Banesto ou les Motorola avec Armstrong.
Oui, trop fort, ça veut dire très fort plutôt, c'est qu'ils étaient bien préparés, c'est qu'ils s'entraînent bien, c'est que Geraint Thomas a été vraiment un champion exemplaire, il était sur tous les terrains, il a pris le maillot, il l'a gardé, il aurait même pu gagner la dernière étape contre la montre si on ne l'avait pas freiné pour pas qu'il prenne de risques. C'est un beau champion qui ne départera pas le palmarès.
Oui. Et puis côté français, 3 victoires d'étape, en attendant peut-être démarre pour une quatrième aujourd'hui, un bilan correct.
Oui, mais les victoires d'étape, ça ne remplace pas les maillots jaunes. Et c'est vrai qu'on a été un peu déçus par Bardet. Moi, je croyais que Bardet, comme ça rime avec Bobet, qu'il allait faire comme Louison, après avoir disputé 5 Tours de France, gagner le 6e. Et Louison avait même gagné le 7e et le 8e. Bon, ce n'est pas le cas. Je crois qu'il a montré ses limites par rapport aux champions internationaux. Ça va être difficile pour lui de gagner un jour le Tour de France. Alors, est-ce que la Tour va faire suffisamment de progrès? Il grimpe, il roule. C'est peut-être comme ça qu'on peut gagner un Tour de France, quand on grimpe et qu'on roule. Il y a Alaphilippe aussi qui est en période de progression. Il a 26 ans, c'est l'âge idéal. La Tour a 3 ans de moins, même encore. On va peut-être reposer nos espoirs sur eux. Barguil nous a également un peu déçus cette année. Ça fait 42 ans maintenant qu'on attend 32 ans qu'on attend une victoire dans le Tour de France. Je ne la vois pas encore venir l'année prochaine, mais il faut espérer. Et puis, de toute façon, C'est le sport, comme ça, il y a des réussites, ça va, ça vient.
Alors vous, le commentateur sportif hein, que vous avez été, le commentateur de, pour le sport cycliste, entre autres, comment vous vivez ce tour devant la télé maintenant ?
Devant la télé, je m'ennuie un peu parce que, bon, d'abord peut-être parce que les retransmissions sont trop longues. Nous, malheureusement, on n'avait qu'une heure, une heure et demie à peu près. On faisait les 40 ou 50 derniers kilomètres. Mais surtout, ce qui me navre, c'est le manque d'enthousiasme des commentateurs. Je ne vais pas être gentil avec mes successeurs, mais on s'ennuie en écoutant ces reportages. Il y a tellement parfois de choses à dire. Et puis, on devrait commenter ce que le réalisateur nous montre, on devrait commenter les images au lieu de faire du blablabla, tout ça c'est bon, mais bon bah c'est comme ça. Moi je fais mon propre commentaire quand je suis chez moi, voilà.
Alors vous écrivez aussi des livres, et notamment un dernier où vous avez écrit les meilleurs moments du Tour de France.
Oui, les plus belles histoires du Tour de France.
L'année et il y en a.
Oui, l'année dernière, j'avais écrit mes mémoires, j'avais raconté tout ce que je ne pouvais pas raconter au micro quand j'étais au micro, et les coulisses, les dessous, les petites histoires qu'il peut y avoir behind the scene, derrière la scène. Et cette année, c'est les plus belles histoires du Tour de France que j'ai sélectionnées avec un confrère, Jean-Louis Gazinière, un ancien journaliste du Figaro. Et on raconte les exploits des héros qui ont fait la légende du Tour. Et bien sûr, bon, il y a du Merckx, il y a du Hinault, il y a du Anquetil Poulidor, et puis il y a Eugène Christophe, le premier maillot jaune, et puis il y a François Faber, qui pour moi est l'un des plus grands héros de tous les temps. Il a gagné le Tour en 1909, il était luxembourgeois, il s'est engagé dans la Légion étrangère en 1914 pour combattre auprès des armées françaises. Il a été tué quelques semaines après, et sa veuve que j'ai rencontrée par l'intermédiaire d'André Leduc dans les années 70 m'a offert la pipe qu'on avait retrouvée dans son paquetage dans les tranchées, et la pipe de François Faber trône sur mon bureau. Et François Faber, il était 1m86, 87 ou 8 kilos. Il mangeait 3 omelettes et une douzaine de côtelettes quand il partait pour une étape. C'est vrai que les étapes avaient plus de 300 km, mais il en passait à ses adversaires même. C'était un playboy, il avait beaucoup de succès auprès des dames aussi, et sa femme me dit, il m'a trompé des tas de fois, mais comme il revenait toujours, c'est donc que j'étais sa préférée. Donc François Faber était un personnage hors du commun, un champion qui, sans la guerre de 14, aurait peut-être gagné, comme Anquetil, Merckx et Bernard Hinault et Indurain, 5 Tours de France lui aussi, il les aurait bien mérités.
Oui, on voit dans vos livres toutes ces dimensions humaines à travers les champions cyclistes. Ça, c'est une des particularités du vélo.
Oui, puis ce sont des champions qui avaient une personnalité. Aujourd'hui, les coureurs, je les appelle des opnis, moi, des objets pédalants non identifiables, avec leurs casques qui sont souvent utiles et leurs lunettes dont ils pourraient se passer pour montrer un peu leur regard au public et qu'on les connaisse un peu mieux. Eh bien, oui, tous les champions qui ont fait la légende du Tour étaient vraiment des personnages. Ils avaient vraiment des choses c'était des gens hors du commun. Je voulais parler de Faber, je pourrais vous parler d'Eugène Christophe. Eugène Christophe, oui, qui avait fait une douzaine de kilomètres à pied dans la descente du Tourmalet pour aller réparer sa fourche. Et moi, au début du livre, je fais un dialogue imaginaire entre les anciens qui sont au paradis des cyclistes et les coureurs actuels. Et il y a Eugène Christophe, par exemple, qui dit, en pensant à Froome, il dit, on en a fait tout un fromage quand Froome a couru 50 mètres dans le Mont Ventoux à la recherche d'un autre vélo. Et moi, j'en avais fait une douzaine de kilomètres. Et d'abord, un cycliste qui court sans son vélo, comme l'a fait Froome, c'est pas un vrai cycliste. Et donc, c'était autre temps, autre façon de voir les choses.
Hein. Oui, puis plus près de nous, on a eu quand même des champions charismatiques, comme Jacques Anquetil, Bernard Hinault.
Oui, en Fignon même. Le plus grand de tous, c'est quand même Eddy Merckx. Ouais. Le plus beau, c'est Jacques Anquetil. Le plus hargneux, ça, c'est Bernard Hinault. Et puis, bon, il y a eu les trois grands malchanceux, Eugène Christophe, René Vietto et Raymond Poulidor, qui auraient mérité de gagner des tours. Mais eux aussi, ils participent à la légende du Tour.
Très bien. Daniel, merci en tout cas. On vous aura un jour dans nos studios. On part à une heure et demie de vélo.
Absolument, avec plaisir.
D'accord, merci beaucoup en tout cas.
Au revoir.
Voilà, véritable encyclopédie du sport cycliste, Daniel Potra. Allez, on va finir, tiens, pour faire la symbiose du foot et du vélo. Eh ben, ni plus ni moins avec notre ami de RTL, Christophe Paco. On y va. Bon, Christophe Paco, un Tour de France qui à nouveau se termine pour vous.
Ben, c'est le... Ouais, peut-être 88. J'ai commencé, 88. Ouais. Vous vous souvenez, Pedro Delgado. Oui. Parce que j'arrivais après Stéphane Roche qui avait fait Mondial, Giro et le Tour de France. 88, premier Tour de France. Et puis 30 ans après, bah, écoutez, je suis ravi, j'ai toujours la même passion. Je trouve que ce Tour de France est magnifique. On a deux petits Français qui terminent sur le podium aujourd'hui ici sur les Champs avec un maillot blanc, un maillot à pois. Et puis on a un vrai champion quand même, Geraint Thomas, qui succède à Christopher Froome. Le seul truc, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit accord entre les deux, un peu comme des pilotes de Formule 1. Mais bon, après, c'est leur problème à l'intérieur. Ils ont une équipe qui est très forte, celle qui a le plus d'argent. Ils savent sélectionner les bons coureurs. Le petit Bernal, le Colombien, est magnifique, il a 21 ans. Enfin, moi, j'adore les sportifs, il m'éblouit complètement. Quoi. Tu sens que c'est une âme de grand sportif. Et puis on a vu un tour, mais c'est après, ce sont les coureurs qui font la course. Alors, la première semaine, en plus, il y a le mondial de foot. Donc. On se disait, c'est bon pour la sieste, mais vivement qu'il y a un match à 17h de football. Et puis après, bon, les organisateurs, ils ont fait un parcours qui était vraiment bien dessiné. Les Alpes n'ont pas été escamotées. Il y a une belle bagarre sur l'Alpe d'Huez. Et puis voilà, ils ont tenté l'histoire des 65 km. Donc ça, c'était bien. On a vu un petit Quintana, même si le départ, ça a fait pchit. Après, le reste du temps, moi, j'ai trouvé que c'était assez combatif. Et puis le Tourmalet avec l'Obisque et tout, c'était une belle étape où Bardet a tenté quelque chose. Dumoulin aussi, même s'il a perdu pas mal de temps au mur de Bretagne avec une pénalité. Et j'ai trouvé que le podium était pas mal. Ce qui m'ennuie toujours, c'est que Dumoulin se satisfasse de sa... Il satisfait plutôt de sa deuxième place. Et donc ça m'ennuie un peu de voir très content d'être deuxième. Parce que le sport, c'est d'être premier, quoi. C'est un peu comme nous, RTL, quoi. Ouais, hein, quand on se bat.
Radio France.
Oui, on dit souvent. Non, mais c'est mieux parce que moi, quand je suis arrivé à RTL il y a quelques années, on n'était plus la première radio de France. C'était Énergie qui était devant. Quand on est premier, je pense qu'il faut le dire. C'est pas une histoire de gonfler les pectoraux et autres. Et c'est pareil pour les champions, je crois. On serait deuxième, on serait content, mais on serait pas super content. On préfère. Le plus dur, c'est de rester premier après. Parce qu'AIC est resté premier. Froome, avec tout ce qui s'est passé avant, je pense que c'est très bien qu'il fasse ce podium. Il a montré qu'il était fort parce qu'il nous a tous bluffés. Parce que dans les Alpes, dans les Pyrénées, il n'a pas super attaqué. Et le dernier jour, sur le contre-la-montre, il perd une seconde sur Dumoulin, mais il fait un numéro. Enfin, moi, j'ai trouvé très très bon Christopher Froome. Et voilà, il s'est dit, bon, c'est une année qui était compliquée pour moi. J'ai fait le Giro, je l'ai gagné d'une façon héroïque, ce Giro. Donc je me dis que le Tour de France, je vais peut-être servir mon équipe. On l'a peut-être demandé aussi, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux, de lever un peu le pied. Mais en tout cas, Geraint Thomas, qui n'avait jamais gagné un grand tour, il a quand même gagné le Dauphiné, hein, par exemple, ou le Paris-Nice. Donc ce n'est pas n'importe quoi sur les deux semaines. Mais là, il a prouvé que sur trois semaines, il pouvait être bon. Et c'est tant mieux. En plus, c'est un garçon qui est plutôt sympathique. Donc c'est bien pour le vélo.
Voilà. Alors il y a une grande dimension humaine avec tous ces champions cyclistes. Oui. Hein. Il y a toujours de belles histoires, de belles aventures.
Ah, moi, j'adore les belles histoires. En plus, j'ai la chance avec Jalabert. J'étais Christian Laborde, aussi un historien et poète. On n'a pas rappelé les temps immémoriaux des Ocagna, des Roger Rivière et autres. Mais moi, je trouve qu'il y a des belles échappées, il y a des belles histoires. Il y a le petit Julien Alaphilippe avec Philippe Gilbert. Tous les deux, ils sont copains comme cochons. Ils font une course de folie. Gilbert, il passe par-dessus un parapet. Voilà, c'est pour rappeler que, voilà, quoi qu'on pense, quoi que disent les gens sur la préparation, trop préparée, la ventoline, les médicaments, jusqu'à parler de problèmes de dopage, on n'a pas eu de cas de dopage, ni mécanique, ni humain. Et on a vu des gens qui méritent le respect quand on voit les chutes remonter sur un vélo. Je pense à Lawson Crado qui fait dernier du tour et qui a roulé alors qu'il est tombé dès la première étape. Et puis qu'on voit des gens tenter, démarrer, qui passent les montagnes, même avec la plus grande difficulté, qui est là, qui va gagner son étape, qu'aujourd'hui il aurait pu la gagner aussi. Il est tombé sur Christophe. Finalement, ce tour, il récompense tous les meilleurs. Tout le monde est là, même Christophe, il a eu son étape. Sagan, il a eu ses étapes. Le petit Gaviria au début. Les Français sont là, avec un petit jeune comme Pierre Latour qui a rendu service à Bardet, mais derrière, il y a Guillaume Martin. On a gagné au sprint. On a trois victoires d'étape françaises. Et puis, on a un petit maillot à poids qui nous a enchanté, qui, moi, me fait toujours rêver. Quoi. C'est ces coureurs que j'aime, quoi. La trempe des Jalabert, des Virenque et autres, ou de Warren Barguil l'an dernier. On a Julien Alaphilippe. Il passe devant le bus, mais il s'arrête devant la voiture RTL, il monte dans le bus pour nous dire bonsoir avec Laurent Jalabert. Quoi. Moi, c'est le respect. C'est pour ça que j'aime le tour. C'est des gens humains. En foot, même si j'adore Kylian Mbappé, même je pense que c'est pas lui qui voudra pas monter dans le tour, c'est qu'il y aura 25 personnes qui vont l'empêcher de monter dans le tour. Voilà. Le tour, ça reste encore quelque chose à visage humain. Et je me dis fort aux organisateurs, arrêtez de barriérer, arrêtez de faire des paddocks de Formule 1. Les gens, ils veulent voir les coureurs. Les gens aiment les coureurs, les gens respectent les coureurs. Après, il y aura toujours quelques excités, malheureusement, en montagne. Mais sur l'ensemble, voilà, on voit bien ici sur les Champs-Élysées, c'est une fête populaire qui est magnifique, quoi. Puis à la différence du foot, les coureurs, ils sont passés vite au début, mais après, ils reviennent tout doucement. Hein, ils ne pensent pas les Champs-Élysées à fond avec leur Coupe du Monde, quoi.
Alors, Christophe, c'est pour ça que vous conseillez à tout jeune journaliste, de faire le Tour de France?
Ben, c'est la plus belle école. Il n'y a pas mieux. Moi, je pense que j'ai fait Jeux Olympiques, j'ai fait beaucoup de choses, que je suis un vieux monsieur maintenant. Et non, mais oui, bientôt la retraite, mais quand même. Franchement, même Jeux Olympiques, ça dépasse tout au niveau des retombées. Je pense que si vous voulez tout connaître, il faut faire le Tour de France. Que vous êtes reporter de base, il faut aller chercher les gens à l'hôpital quand ils se blessent. Quand il y a un cas de dopage, il faut courir. Là, il n'y en a plus depuis un petit moment, mais autrement, on passait des nuits blanches. Il faut raconter ce qui se passe sur la route. Il faut parler aux gens au bord de la route. Et il faut faire des commentaires tout le temps. Et c'est 3 semaines d'affilée, quoi. Nous, les jours de repos, on roule ou on est avec les coureurs. Donc, il n'y a pas un moment où on peut s'arrêter, même la nuit. Téléphone portable, chercher les bonnes idées, le petit reportage pour faire la différence avec les autres radios, les autres télévisions. On ne va pas lutter contre France Télévisions qui va nous faire du départ de l'étape jusqu'à la fin de l'étape. Nous, on fait les demi-heures et après, le soir, on y va fort. On donne beaucoup la parole aux auditeurs, comme vous l'avez remarqué. Et franchement, pour un jeune reporter, faire le Tour de France, pour moi, c'est le Graal, quoi. Et c'est pour ça que je continue à le faire.
Alors vous, vous l'avez fait dès le début cette année, hein. Il y avait le mondial, mais bon, année, c'était le vélo. Sauf une journée, vous êtes revenu sur Paris le dimanche.
Le problème, c'est que vous avez plusieurs émissions, il faut faire un choix, on ne peut pas tout faire. Donc cette année, voilà, je suis allé pour le plaisir, je suis allé en Russie. Donc j'avais cette chance-là aussi, donc c'est pas mal. Et donc voilà, comme j'avais une émission à 22h tous les soirs et que les matchs de foot étaient l'après-midi, donc 17h, on ne pouvait pas faire une émission jusqu'à minuit tous les soirs de foot. Puis on ne savait pas ce qu'allait faire l'équipe de France non plus. Après, on était gâtés, on a cassé tous les programmes, la direction d'RTL a choisi de casser tous les programmes. Je suis même revenu, moi, de Paris-Roubaix, enfin, entre guillemets, du Paris-Roubaix. Le dimanche soir, pour faire une émission spéciale avec la folie sur les champs. Donc voilà, on a une équipe soudée en plus, et moi, franchement, le Tour de France, c'est difficile de me l'enlever, quoi. C'est ma petite Madeleine, je retrouve des gens que j'aime, et puis, encore une fois, on roule à travers la France, et la France est magnifique, on a un pays qui est juste formidable, les gens l'oublient. Mais c'est juste exceptionnel, vous passez dans un endroit. Mais moi, je suis arrivé l'autre jour à Péragude, où Bardet avait gagné l'an dernier. Je me suis arrêté avec la voiture RTL, j'ai fait une photo, j'ai dit, la chance que j'ai d'être là, quoi. C'est, voilà, après 30 tours de France.
Il y aura un manque demain?
Oui, demain, il va falloir que je cherche mes journaux quelque part. Je vais chercher ma voiture, RTL. On va dire, non, il faut la rendre maintenant. Et puis, je ferai pas un bisou à Jalabert le soir, donc je vais l'appeler.
Je vais l'appeler. À la rentrée, c'est le grand soir qui continue?
Ouais, le grand soir qui continue, avec plein de choses autour du sport aussi, de temps en temps. Et puis, donnant le bonheur d'être RTL, et puis avec une équipe qui est vraiment extra, vous écoutez RTL, non, un peu?
C'est bon.
Bon. On fait des blagues des grosses têtes, hein?
On peut faire toutes les émissions de sport. C'est bien, Christophe.
Appelle,
toutes les émissions.
Appelle Madame Belpère de Loche. Ça, c'est les grosses têtes.
Ouais, ça me rappelle les belles émissions de foot aussi. Hein,
oui, toujours le foot. Avec Christian Olivier, toute l'équipe du service des sports, vous allez retrouver le foot le vendredi, le samedi, le dimanche, les grandes affiches, la Ligue des Champions, puis l'équipe de France. Parce que maintenant qu'on est M6, voilà, on est comme TF1, on va donc se partager les matchs. Donc on aura encore plus d'RTL sur M6, et ça, on est ravis.
D'accord. Merci, Christophe.
Bah, avec plaisir.
Voilà, merci à Christophe Pacaud pour ces interviews sur le Tour de France 2018. Alors, il y a eu quand même d'autres événements sportifs cet été, hein, ils sont passés un peu au second plan, pour le tennis, notamment Djokovic qui gagne à Wimbledon et à Flushing Meadows.
Oui, il revient au premier plan après
Gerber gagne, de disette. Ouais, Gerber gagne chez les femmes à Wimbledon, et puis c'est Osaka qui gagne à
Flushing Meadows. Oui, la grande surprise avec le fiasco Serena Williams. Ouais. Qui a fait un peu sa diva avec l'arbitre lors de la finale, alors que voilà, elle était Osaka était largement au-dessus. Mais moi, je suis très heureux pour Djokovic parce que c'est un mec que j'aime bien et qui revient au premier plan, et je suis heureux pour lui. Puis ça fait des beaux matchs face à Del Potro, Federer et.
Ouais. Et puis les Français, une nouvelle fois inexistants, hein, que ce soit à Wimbledon ou à Flushing Meadows.
Bah là, ça faisait quand même, longtemps que ça n'avait pas été aussi mauvais pour les Français. Hein, et qui personne en deuxième semaine depuis je sais pas combien de temps. Bernard Giudicelli, c'est le nouveau président
oui,
de la FFT.
Ouais.
Ouais, qui fait des polémiques avec Alizé Cornet, etc., avec Serena Williams. Moi, je trouve que dans l'ensemble, le tennis français va mal, même si on est en finale de Coupe Davis.
Alors, justement, on va en parler. La France, donc, mène 3-0 devant l'Espagne, donc c'est gagné, on sera en finale.
L'Espagne sans Nadal.
Ouais, parce que ça va changer les choses. La France va être en finale de Coupe Davis une nouvelle fois. C'est la dernière Coupe Davis de l'histoire, hein. Oui. Après, c'est fini. Ça sera plus la Coupe Davis, ça n'aura peut rien à voir. Ça va être ou la Croatie ou bien les USA quand même. Hein. Ça sauve un peu la face, même si ça reste compliqué pour la finale.
Oui, parce que ça reste un beau trophée et que battre les États-Unis ou la Croatie, c'est pas encore fait. Mais ça serait magnifique. Et puis la dernière, la gagner, voilà, ça serait un beau pied de nez à tous ceux, parce que ça a fait polémique. Hein. Personne ne voulait l'arrêt de la Coupe Davis, surtout les Français, parce que c'est le seul trophée qu'on gagne.
Ouais, c'est mythique, la Coupe Davis en tennis, c'était mythique, quoi.
Bien sûr, je me rappelle, même étant jeune, Guy Forget qui la soulève et tout, c'était magnifique. Voilà.
Oui, mais on aura peut-être le droit à une petite revanche de la finale de Coupe du Monde de football aussi, France-Croatie.
Oui, pourquoi pas, pourquoi pas.
Après, voilà,
le tennis... Ça sera peut-être un peu plus compliqué en tennis, quand même.
Le tennis français, ouais. On va jouer une deuxième finale de Coupe Davis de suite, mais on est un petit peu des opportunistes. On a tapé le Japon sans Nishikori, la Serbie sans Djoko l'année dernière, cette année l'Espagne sans Nadal. Donc voilà, maintenant ça va être une deuxième finale, mais c'est un petit peu paradoxal parce que... Depuis maintenant 40 ans, le tennis français n'a jamais été aussi mal et paradoxalement, on va jouer deux finales de Coupe Davis de suite, peut-être pour en gagner une deuxième.
Oui,
de
c'est
suite,
parce que les grands désintéressent un peu de cette compétition. C'est ça qui est dommage, les grands champions.
Totalement, quand on voit que les grands joueurs vont plutôt faire la Rod Laver Cup plutôt que d'aller avec. Ouais. Leur sélection.
Oui, ça paye plus la Coupe
Après, je suis pas là, tout à fait d'accord avec toi, Arnaud. La France, ils sont opportunistes. Les joueurs qui se blessent en face, c'est pas de la faute des Français. Enfin, je veux dire.
Ah non mais c'est pas de la faute des Français si les joueurs en face se blessent ou ne veulent pas la jouer, je suis bien d'accord, sauf qu'aujourd'hui c'est peut-être aussi pour ça que cette réforme est envisagée. Moi je suis plutôt contre parce que la Coupe Davis c'est beau, mais si les joueurs en face ne veulent plus la jouer, voilà, donc maintenant c'est...
Maintenant je crois qu'on a été servi aussi, je suis ça d'un petit peu plus loin, mais je crois qu'on a quand même été servi au niveau des blessés là pour le rendez-vous contre l'Espagne. Donc on va dire que peut-être qu'on est... meilleur en que les Français sont les meilleurs en tennis en ce qu'on appelle le niveau 2 ou niveau 3, c'est-à-dire passer les 10, 15 premiers joueurs au classement ATP. C'est peut-être là qu'on a finalement les meilleurs joueurs, les meilleures ressources. Si on enlève les à chaque fois les 2, 3 ou meilleurs joueurs par pays, peut-être que la France a, parce que moi j'ai rigolé, on en parlait tout à l'heure en antenne, j'ai rigolé quand j'ai vu l'interview Yannick Noah qui disait j'aurais préféré que Nadal soit là. À laquelle je ne crois absolument pas du tout, mais même si Noah, on adore Noah et l'idée et tout, faut quand même peut-être pas exagérer quoi. Alors sinon c'est vraiment qu'il avait pas envie de gagner quoi.
Si Nadal était là actuellement, la France mènerait quand même au score, il y aurait 2-1.
Je sais pas.
Il y aurait peut-être
la
psychologie,
Je sais pas.
Il y aurait 2-1 parce qu'on est à 3-0.
Oui, mais tu sais pas, je sais pas, mais tu sais pas si au sein de l'équipe, il aurait pas transcendé son numéro 2, qu'aurait gagné un match, ou peut-être même si on venait même 2-1, il en resterait quand même 2 à jouer. Donc, on aurait gagné le double, d'accord, peut-être, mais sinon, je sais pas. Je sais pas
si. De toute façon, le dernier match classique de Coupe Davis, c'est la France qui va le jouer. L'année prochaine, on aura un nouveau format et dire la médiocrité. Maintenant, c'est Gérard Piqué qui va l'organiser. Donc, on parle de tennis et c'est Gérard Piqué qui s'en occupe. Donc,
non, mais ça, c'est un peu. Tout à l'heure, il y a deux secondes, tu parlais on parlait des complotistes contre lesquels on est. C'est une phrase qui est vite dit. Gérard Piqué dirige la société de production, notamment, on en a beaucoup parlé avant la Coupe du Monde pour Griezmann. Dirige une société dont une des activités, effectivement, a été de présenter cette réforme, de la Coupe Davis. Maintenant, c'est pas lui. D'abord, lui, il est encore joueur de foot professionnel. C'est pas lui qui décide et qui fait. Il est entouré. Il a une société qui fait ça.
Au moins, il prépare son après-carrière.
Non, exactement. Tout à fait. Mais il a une société. Il est dirigeant de cette société. On peut quand même penser que même les instances internationales et tout ne font pas confiance à un joueur de football professionnel pour réformer le ça. Donc,
ce que je peux dire, c'est que le journal Le Figaro, au courant du mois d'août, a publié une interview pour présenter le nouveau format de la Coupe Davis. Qui s'y colle, c'est Gérard Piqué himself qui vient devant les journalistes du Figaro.
Bah oui, non, mais ça, c'est Les Figaro qui c'est l'image de marque, c'est l'image, et la vie, elle est comme ça aujourd'hui, quoi. Il y a des gens qui auraient certainement été mieux. Ah, je vais vous mettre mon directeur marketing, machin. Non, mais nous, on préférait que ça soit vous qui veniez. Venez, je suis journaliste, je sais au moins, on sait comment exactement ça se passe. Maintenant, c'est tout. Je pense que mettre l'image de la nouvelle Coupe Davis ou nouvelle compétition, la coller uniquement à Gérard Piqué, c'est pas lui qui a pondu ça, quoi. C'est tout.
Stéphane, il n'y a pas la patte Noah comme il y avait la patte Deschamps pour l'équipe de France de foot à travers cette Coupe Davis?
Bah, peut-être.
Parce que c'est quand même, chaque fois que Noah vient, la France gagne les Coupes Davis, quand même.
C'est sûr, sûr que ça, je sais pas si ça peut être la patte
on
noire.
On connaît un peu, bon, c'est quand même quelqu'un qui a...
Ouais, voilà, ça peut être en tout cas sur le petit plus qui fait la différence par rapport à... C'était Gilles Simon par rapport à d'autres capitaines de l'équipe de France. C'est sûr que ça peut effectivement faire basculer, quoi.
Un petit mot?
Oui, c'est vrai que Noah a apporté quelque chose à l'équipe. À chaque fois qu'il est là, ça se passe très bien. Mais bon, on verra. On est à la finale, c'est pas gagné tout de même.
Ah non, c'est sûr. Allez, on marque la dernière pause de pub et musicale de ces deux heures d'émission rentrée. Allez, on y va.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
À Rambouillet, zone du Bel Air, derrière Carrefour, Terre et Mer Grill, votre nouveau restaurant vous accueille 7 jours sur 7 pour déguster sa cuisine française traditionnelle de terroir faite maison, ses grillades de viande et de poisson et ses plats mijotés. Du lundi au vendredi midi, 13,90€ l'entrée plat ou plat dessert. Et du lundi au vendredi soir, week-end et jours fériés, 20,90€ le plat au choix, plus entrée et dessert à volonté. Menu enfant de moins de 10 ans, 10,90€ et gratuit pour les moins de 3 ans. Alors pour passer un agréable moment en famille ou entre amis, rendez-vous au nouveau restaurant Terre et Mer Grill, zone du Bel Air, 7 rue Gustave Eiffel, derrière Carrefour à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 78 88.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville, réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Et maintenant, retour des hits sur RVE. RVE.
I'm back to my old ways. I don't know what happened. Just me, maybe it wasn't meant to be. I never meant a lot of you. I really thought I could love you. That way this woman do. I really thought I could. It is true to you. I guess I'll just pack it up, leave it all behind. I'll call you in a few days to check on you.
Un petit mot donc pour finir sur les Jeux européens multisports. Tiens, je voudrais vous annoncer que Pascal Obispo m'a téléphoné, sera le parrain du Téléthon. Voilà, il fallait que je le dise, donc je l'ai dit. Parrain du prochain Téléthon.
Beau parrain.
Ouais, Pierre, la Formule 1, le mano à mano Hamilton Vettel continue avec un petit avantage pour Hamilton pour l'instant.
Oui, bah c'est toujours aussi beau la Formule 1. Ouais. Non, mais c'est vrai que Hamilton, il est toujours là, et puis Vettel qui revient au premier plan. Après, moi, ce que j'aimerais parler sur la Formule 1, c'est l'arrivée de, du petit jeune Leclerc qui va prendre un baquet chez, chez Ferrari.
Le Mbappé de la Formule 1.
Et puis les... Non, il est monégasque, c'est vrai. Pardon, c'est presque français. Et puis à côté de ça, les Français qui figurent bien cette année avec Ocon, avec Romain Grosjean, etc. Non, c'est une belle année.
Ouais, même question que pour le tennis, on va gagner un jour un Grand Prix de Formule 1. Je crois le dernier, c'est Alesi qui l'avait gagné.
Ouais, ou Panis peut-être. Non,
ou Panis. Panis, je crois. Panis.
Oui, Panis. Ça, en fait, le problème, c'est qu'il faudrait que les Français soient dans une bonne voiture. Voilà, c'est ça.
Toujours pareil.
Et c'est pas ça, on se dirige pas vers ça. Donc, je suis pas sûr que dans les années à venir, on se redirige vers une victoire française. Mais bon, il y a quand même eu une victoire française. C'est le retour de la Formule 1 en France déjà. Et ça, c'est beau.
Alors, pour clore ce bel été sportif, on a eu les Jeux européens multisports. C'est-à-dire qu'on a groupé 7 sports. Donc, ils ont organisé leur championnat d'Europe pendant une semaine. Donc, on va dire qu'au total, il y a eu 42 médailles pour la délégation française, 13 or, 14 argent et 15 bronzes. On va quand même surtout citer en athlétisme, parmi les 10 médailles, les 3 médailles d'or et surtout un titre de Mekissi. Ça, c'est un guerrier. 5e titre de champion d'Europe.
Ouais, magnifique. Il a eu beaucoup d'échecs au championnat du monde, au JO, Il a toujours, il est toujours resté focus.
Il est quand même souvent sur le podium. Et quand il sera présent, il est là quand même.
Non, mais l'histoire du dossard, etc., je me rappelle. Enfin, là.
Voilà, c'était le maillot qu'il avait.
Quand il avait enlevé son maillot. Là, il est encore allé chercher son 5e titre européen. Et moi, j'aime beaucoup ce mec-là qui se bat à chaque fois. Et je trouve ça magnifique. Après, J'ai bien aimé le format avec de la natation.
Oui, etc. Alors, en natation, 12 médailles, dont 3, et surtout Charlotte Bonnet, aux avant-postes, dans un sport quand même qui est en totale reconstruction.
Oui, on a eu quand même dans le passé des victoires énormes. Et là, il faut quand même régénérer tout ça, ramener des jeunes au premier plan. Ça se fait pas tout de suite, mais Charlotte Bonnet, c'est quand même un beau porte-drapeau du sport de la natation.
Natation. Puis des médailles d'or aussi en aviron, en triathlon aussi, donc en gymnastique et puis en cyclisme sur piste. C'est bien, Francis, ça vous a plu l'athlétisme?
Oui, ça a occupé les soirées d'été à la télé.
Ça a prolongé le foot et le vélo.
Ça a prolongé le foot et le vélo. Puis je voudrais un peu signaler que j'ai trouvé un peu Renaud Lalvinini sur la pompe descendante, malheureusement, après être arrivé au sommet, là, je crois qu'il y a eu une passation de pouvoir lors de ces championnats avec le Suédois, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est plus ce qu'il a été. Et bon, c'est l'âge.
Tiens, comme Francis, je voulais aussi parler de l'arrêt de carrière de Boris Diaw. 36 ans.
Babac.
Ils s'arrêtent tous les uns derrière les autres.
Un grand homme qui s'en va.
Un grand homme qui s'en va par la taille et par le talent.
Pour moi, c'est. Tony Parker, ça reste la référence, mais Boris Diaw, humainement, vous pouvez parler à tous les gens qui connaissent le basket ou qui connaissent personnellement Boris Diaw, c'est un mec en or qui s'en va.
Tony Parker qui a repris l'Asvel et qui maintenant s'investit très sérieusement dans le club.
Bon, oui, mais il fait
des choses qui plaisent pas à tout le monde.
Non, le ballon qui change de couleur, ça plaît pas apparemment. C'est possible, Philippe, je voudrais juste dire un mot d'une polémique qu'on a entendue dernièrement avec probablement la suppression de postes.
Oui, alors je voulais en parler justement. Le changement de ministre.
Roxana Maracineanu.
Oui, Maracineanu qui remplace.
Qui met les pieds dans le plat tout de suite.
Malheureusement, diminution de budget. On rentrait de Lima il y a un an. On prépare mal les jeux.
Ils ont rien compris, je veux dire. Là-dessus, ils ont tout à fait tort. Comment on sait que le sport c'est vecteur c'est positif. Il devrait y en avoir plus, au contraire, dans les écoles, etc. Et on fait que diminuer le budget. Et on veut préparer les jeux
Parce que les jeux c'est dans 5 ans.
Non mais ils devraient s'inspirer de ce qu'ont fait les Anglais pour Londres. Ils ont tout misé. Et là, ils veulent 80 médailles. Mais en rêve. Ça, on se dirige pas du tout vers ça. Ouais.
Juste, pas trop de rapport à ce que tu viens de dire, mais je voudrais quand même dire ce qu'on avait parlé le foot, sport de riche, je vous en avais parlé dans une émission au mois de juillet. La Fédération française de foot vient de reverser ou va reverser 10 millions d'euros au sport amateur. Donc, faut quand même le souligner.
Ouais, faut le dire, c'est important, parce que souvent,
parce que les gens ne le savent pas, ça.
J'en avais parlé déjà une émission au mois de juillet, disant qu'il y avait, que ça nous coûtait rien. La Coupe du Monde, le titre de champion du monde n'a pas coûté un centime aux contribuables français. Et au contraire, ils viennent. Alors même si on parle de primes de 300 000 euros pour les vainqueurs, c'est de l'argent qu'ils ont gagné par eux-mêmes. Et là, ils redistribuent.
Eh bien, messieurs, merci en tout cas d'avoir été très, très prolixe hein, durant ces deux heures d'émission. On a remonté en tout cas toute l'actu sportive de cet été. Donc Arnaud, il veut finir et je vais lui donner 10 secondes.
Eh bien, n'oubliez pas, sur le site de l'Éco-Républicain, un portrait du Ludovic Blas.
C'est très bien, c'est voilà. Très bien. Et on l'a dit, écrit par Arnaud Neveu. Voilà. Allez, merci à tous et à tous. Merci à Bastien, il a été gâté hein, pour son grand thème donc ce matin. Et rendez-vous la semaine prochaine, 10h, 11h. Tiens, on parlera golf, on sera à une semaine de la Ryder Cup. Bon dimanche.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale.